Ce jour est dédié à la réfoua de tous les blessés de la guerre et pour que Dieu mise pitié de son peuple, qu'il n'y ait plus de morts et plus de blessés. Amen.
Alors moi j'avais peut-être une petite question, parce que en venant ici en Israël, j'ai senti une légère influence, on va dire. Et on m'a toujours dit que l'endroit dans lequel on se situait influençait nos comportements. Et j'aurais aimé savoir comment ça fonctionne. Pourquoi on peut remarquer que certaines personnes qui font leur aliya avaient des choses qui étaient inscrites dans leur comportement habituel, dans leur quotidien, et puis qu'elles abandonnent ou qu'elles doivent faire un choix d'aller un maximum en avant, quoi, et de changer complètement, ou alors de regresser complètement. Et je pense que c'est en rapport avec la paracha de la semaine, qui est Devarim, qui récapitule justement ces endroits et sous forme d'allusion. Voilà.
Bon, alors c'est une question un peu complexe. D'abord, au niveau de l'influence de l'endroit même sur la personne, excepté la terre d'Israël, qui est un cas spécial, Chazal ont dit « Meshanem makom, meshanem mazal ». Quand tu changes d'endroit, tu changes de mazal, tu changes de destinée. Bien qu'il est marqué « En mazal à Israël », il n'y a pas de destinée pour Israël, ça c'est pour la collectivité d'Israël. Chacun de nous, il a une destinée, à moins qu'il soit un grand, grand sadique, et grâce à ses mitzvot et son mérite, il peut se hisser au-delà de sa destinée particulière et s'inscrire dans la collectivité d'Israël, et là, il jouit d'une providence spécial, comme c'est le cas du peuple d'Israël. J'ai un des rabbinim chez la Yeshiva, dont les parents étaient très fortunés, en Tunisie. Et le père est venu ici, fortuné, le père, en Israël, et ça a été la Bérésina. Alors, il était voir le rabbi Ben Sana Bachaoul, qui était un des grands hommes de la génération, qui avait au Rakodesh, un grand homme, il lui a dit, toi, ton mazal, il est à l'étranger. Pas ici. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu as du mazal et des endroits où tu as moins de mazal. Ça, c'est une chose et personne ne peut savoir qui, quoi, comment, donc où. D'accord? Ça, c'est l'expérience qui le montrera et personne ne peut te dire, à moins quelqu'un qui est roi Rakodesh, ce qui est aujourd'hui, choses qui sont presque inexistantes.
Ça veut dire que mieux aller avec plus de mazal à l'étranger que avec moins de mazal en
J'ai pas dit ça, non, chassé chaleur. C'est certain qu'Israël, c'est mieux sans mazal que l'étranger avec. Il lui a jamais dit rentre en Tunisie. Il lui a dit, là-bas, tu avais de l'argent, ici, tu n'as pas d'argent. Maintenant, le cas de la terre d'Israël, spécifiquement, la terre d'Israël est une terre qui est sainte. On ne peut rien obtenir en sainteté sans qu'il y ait un sacrifice au niveau physique. C'est-à-dire ce que Chazal ont dit dans le traité Brachot, page 5, il y a trois choses qui s'achètent avec souffrance, la terre d'Israël, la Torah et Olam Haba. C'est-à-dire tout ce qui est acquisition spirituelle. La terre d'Israël, c'est spirituel, c'est un grand mérite, c'est une grande chose. Ici, on est branché, c'est la terre de Dieu, laquelle nous jouissons d'une providence spéciale. Les mitzvot ont une autre valeur en terre d'Israël qu'à l'étranger. Donc tu ne peux pas accéder à un niveau spirituel sans qu'il y ait un effort. Effort, ça s'appelle aussi souffrance. Ce que dit la Gemara dans le traité Megillah, il y a gata matzata tamin. Si tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Lo yagata ou matzata, si tu n'as pas peiné et tu as trouvé, alta, mais ne crois pas que tu as trouvé. Ce que tu as trouvé, ça ne vaut rien. Tu ne peux pas accéder à un niveau vraiment réel s'il n'y a pas eu auparavant souffrance. C'est pour ça que très souvent, on verra aussi dans la vie que des fois, des gens, ils ont des grosses galères. D'habitude, c'est un creux de vague qui prévoit, qui vient avant un très haut de vague. Il y en a qui me diront, oui, moi, ça fait 60 ans que je suis en galère et je ne vois pas le fin du creux de la vague. Ok, bon. Chacun avec sa destinée. Mais en gros, dans la vie, ça va en dents de scie. Il y a des jours bien, des jours moins bien. Et de mon expérience, en tout cas personnelle, j'ai vu que lorsque, avant qu'il y ait un haut, et bien tu dis un bas. Il y a un bas qui prévoit, quand on parle d'acquisition spirituelle, on ne parle pas maintenant de j'ai reçu une augmentation au travail, d'accord. On parle d'acquisition spirituelle, on parle de grandes actions qu'on peut faire, etc. Lorsqu'il y a de la peine, lorsqu'il y a... D'habitude, c'est un corollaire, c'est inévitable pour arriver à un niveau, devoir aussi passer par un effort. Donc, quelqu'un qui vit en terre d'Israël, ça ne peut pas se passer facilement. Et ça se passe facilement, c'est extrêmement bizarre. Ça ça doit être un effort, voire de la souffrance. Parce que ici en terre d'Israël, tu acquiers un degré spirituel qui est beaucoup plus haut. Maintenant, il y a des endroits en Israël aussi qui sont plus ou moins saints. Ça veut dire qu'à part l'endroit en lui-même géographiquement, tu as aussi l'influence de la société. Et certains côtés de la Bible, ça a une autre ambiance que Jérusalem. Jérusalem reste quand même la ville sainte, non seulement parce qu'elle est sainte en elle-même. La sainteté de Jérusalem, en fait, elle se limite aux murailles de la vieille ville, d'accord, plus ou moins, il y a une partie du sud aussi, de l'ancienne vieille ville de Jérusalem. Là s'arrête la Kedusha de Maaser Sheni, ce qu'on appelle la sainteté de Maaser Sheni. Ici, nous ne sommes pas dans la Jérusalem, qui est la ville sainte au niveau de la Kedusha de Maaser Sheni. On est hors des murailles. Mais néanmoins, nous sommes à Jérusalem. Il y a des incidences au niveau ilchatique, par exemple, Pourim, nous fêtons le 15, et non le 14, comme les autres villes. Bon, et il y a une certaine ambiance. Maintenant, cette ambiance, certainement, ne provient pas que de la sainteté de la ville en elle-même dans les murailles, provient de la présence des êtres humains qui occupent cette ville. Quand tu as une ville où tu as certainement plus de 200 000 ou 150 000, je ne connais pas les chiffres exacts, 150 000 personnes qui sont au service de Dieu, jour et nuit, plus ou moins sont axés là-dedans, certain qu'il y a des vibrations. Et quelqu'un avec un peu de sensibilité peut même, à l'intérieur de Jérusalem, ressentir la vibration différente qu'il y a dans un quartier où les gens ne sont pas pratiquants et entre un quartier où les gens sont pratiquants. Pas en regardant, en fermant les yeux même. Je veux dire, sans voir que maintenant je vois des costumes de gens pratiquants et là je vois des mini-jupes. Sans parler de ça. Il y a une vibration de choses. Donc il est certain que nous sommes influencés par l'influence. Et la Mishnah a déjà dit « Oi la racha, oi le shreno, malheur au racha, au mécréant, et oi malheur à son voisin, oi la tzadik, tov la tzadik, le tzadik hérite du bien, mais tov le shreno, et son voisin aussi. » Ça veut dire qu'on est toujours, lorsque quelqu'un a des bonnes fréquentations, donc il va suivre le bon chemin, il a plus de chances de suivre le bon chemin. L'homme, il est social, il est influencé par la société, comme l'Orba m'explique dans El Chodot, on a lu dernièrement ici, dans le chapitre 6, il dit que l'homme est social de nature, donc il suit la société dans laquelle il se meut. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah, bo titbak, tu te colleras au chachamim, de se coller aux gens qui sont des gens bien pour apprendre de leur bonne façon.
Est-ce que ça veut dire que ce serait la même chose si on allait vivre dans le quartier Haredi de Brooklyn?
C'est certain qu'entre Brooklyn, Harlem et Brooklyn, entre New York, Harlem et New York, Brooklyn, on va opter pour New York, Brooklyn, c'est évident.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait sentir la même vibration là-bas?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que lorsque tu as une concentration de gens bien, ça laisse une vibration, c'est certain. Mais beaucoup moins qu'en Israël, c'est certain aussi. Maintenant, pour la spécificité de ta question, pourquoi des gens, quand ils montent en Israël, alors on a une sorte de sélection qui se fait? Ou bien tu vois des gens qui se renforcent beaucoup en Torah, ou ils quittent complètement. Mais il faut bien comprendre, je pense que le problème, il n'est pas israélien, il est plus français. Dans le monde entier, les communautés juives sont extrêmement compartimentées. Ça veut dire, tu vas en Amérique, tu es ou complètement non religieux, ou non conservatif, réformiste, c'est-à-dire non pratiquant, ou Froum, complètement religieux, orthodoxe, que ce soit orthodoxe qui travaille, orthodoxe qui fait que étudier, tu as toutes les cas de figure, mais orthodoxe. Il y a très peu de moitié-moitié. Quelqu'un qui est un pied dedans, un pied dehors. En Israël aussi, il y a quelques communautés de un pied dedans, un pied dehors, d'accord, modéré, on appelle ça, d'accord, je ne sais pas comment on peut appeler cela, mais la majorité sont ou orthodoxes, ou complètement non pratiquants. T'as que les Français, qui sont en tant que communauté, majoritairement un pied dedans, un pied dehors. Ce sont d'habitude des Nord-Africains, les Juifs français ashkénazes, il n'y en a plus beaucoup. Et eux, d'ailleurs, ils sont ou bien complètement pratiquants, ou complètement non pratiquants. C'est très rare de voir un Juif ashkénaze qui est à moitié-moitié. Mais la majorité des bons Sfaradim, Nord-Africains, ils ont la foi en Dieu, tu leur dis le mot Kabbalah, ils commencent à tressaillir, ils ont le caveau des rabbanim. Et pour le Shabbat, c'est sacro-saint, mais on fait le kiddush. Le Shabbat, on mange peut-être le pas symbolique de Shabbat, la daf, ou je ne sais pas, couscous boulette. Mais ça ne va pas empêcher non plus d'allumer la lumière Shabbat et de regarder la télévision. Et bon, on s'habille à la française, pas forcément en vêtements orthodoxes ou en tzniout. Mais on a une très grande foi en la Torah. On mange plus ou moins cachère, du porc on mange pas, mais la viande, oui, on peut manger la viande non cachère ou non, on fait attention à si, on fait attention. Bon, chacun avec son, à quel point le pied sera gros dans un coin et plus faible dans l'autre. Mais on peut dire la communauté mondiale du moitié-moitié, c'est la France. Alors j'ai dit une chose intéressante, c'est un jeu de mots, que je ne sais pas s'il n'est qu'un jeu de mots, c'est marqué à la fin de Zacharie 13. Il y a deux endroits dans toute la Bible dans lesquels on parle de Gog ou Magog, de la fin des temps. Une, c'est dans Yechezkel 38. Là-bas, c'est un mot très, très, très positif. C'est des Gog ou Magog, c'est donc une union des peuples contre nous à la fin des temps. Et ils proviennent du nord. Ils viennent du nord contre Israël. Et dirigés par un roi qui est surnommé Gog. Et on a ce récit longuement mentionné dans Yechezkel 38. Et là-bas, dès que Gog, avec ses armées, arrive sur la terre d'Israël, il y a un dévoilement de Dieu, Dieu se dévoile, et c'est lors de leur grande déconfiture, Dieu relance sur lui des pluies torrentielles, du soufre, du feu, des météorites, enfin, toute une sorte de choses. Et c'est le dévoilement de Dieu, tout est gentil, tout est bien, et tout le monde est content. Ça, c'est le bon scénario. Il y a un mauvais scénario qui existe aussi. Il se trouve à la fin de Zacharie 13, début Zacharie 14. Deux tiers de Haaretz périra. Haaretz, Haaretz, c'est la terre. Deux tiers de la terre périront. C'est quoi la terre? Marloc, discussion entre Rishonim. Il y en a qui disent la terre entière, le globe. Non, on parle de la terre d'Israël. Deux tiers périront. Et le tiers qui reste, Dieu l'affinera, comme on affine l'argent et l'or. Et à la fin, ceux qui subsisteront de ce tiers diront « Cela est mon Dieu », et Dieu dira « Cela est mon peuple ». Et là, on finit Zacharie 13, comment Zacharie 14, qui raconte comment aura lieu cet affinement terrible, que l'ennemi vient à Jérusalem, il pille, il vole, il viole, etc. Et une partie de la ville part en exil, et là seulement vient la Géoula, vient le Mashiach, et tout le monde est content. Bon, on ne sait pas comment ça sera, on espère que ce sera le scénario Yechezkel, et non le scénario Zacharie. Je vais raconter l'histoire que j'ai demandé, je vais la raconter ou pas, j'ai demandé au rabbin Ismaël Bachelou déjà une quinzaine d'années, lorsque Gog ou Magog, c'est marqué, il vient du nord. Alors tu apprends comme ça, c'est marqué, il sera une multitude énorme, beaucoup de peuples réunis, tu auras des millions comme ça qui vont venir, djihad, Bahaliaou, peut-être en allemand aussi, je ne sais pas dans quelle langue ils vont parler, qui ça sera, en russe, je ne sais pas qui ce Gog ou Magog va venir. Tu apprends qu'ils sont en train de conquérir, qu'est-ce que tu fais? Réaction normale, bah, tu prends ta bagnole et tu fuis vers le sud, Elat, d'accord, tu vas, je ne sais pas, à Beersheva, enfin loin de, eux ils veulent atteindre Jérusalem. Alors je lui demande au Rav, qu'est-ce que je fais? Quand Gog ou Magog il arrive, qu'est-ce que je fais? Je prends la voiture et je vais au sud. Il m'a répondu avec le doigt, il m'a fait, tu restes ici. Donc, Jérusalem, c'est l'endroit sûr. Juste en passant, j'ai entendu dire que le Rav Chaim Kanevski, donc un des grands rabbins de la génération, qui a Ruach HaKodesh assurément, à propos de la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on doit quitter Israël, venir en Israël, fuir, où aller? Il a dit, tous ceux qui habitent Bnei Brak et Jérusalem, là-bas, il n'y a pas de risque. D'accord? Ça, c'est une chose que j'ai entendu qu'il a dit. Je n'ai pas entendu de moi-même, mais on m'a dit qu'il a dit. Donc, on espère que ce sera le scénario Yechezkel, le bon scénario qui va se réaliser, et pas le mauvais. Pourquoi je suis arrivé à parler de Gog ou Magog?
D'un jeu de mots.
Ah oui, un jeu de mots. Alors, c'est marqué que j'affinerai ce tiers qui reste comme on affine l'argent et l'or. Qu'est-ce qu'on doit affiner? Les deux premiers tiers qui ont péri, c'est des déchets. Ça, ils sont éjectés tout de suite. Ce qu'on doit affiner, c'est quand t'as, comme on affine de l'argent et de l'or. T'as une pépite d'or, c'est de l'or, mais il y a quelques impuretés dedans. Donc tu prends un chalumeau, comme ça, tu nettoies bien, et tu fais fondre, etc., et tous les déchets brûlent. Reste que l'or fin et l'argent pur, affiné. Comment est-ce qu'on dit? Comme c'est marqué dans le verset, j'affinerai. Utseraftim, je les affinerai. Tu peux lire en France, tu peux lire avec les points au Tsar Fatim et les Français. Voilà, c'est ceux qui ont besoin d'être affinés, d'accord. Ils sont raffinés, et il faut les affiner encore. Alors, on espère qu'il n'y aura aucun chalumeau, mais il est certain qu'il y a nécessité, tu ne peux pas rester, c'est inhérent à la rédemption de la Géoula, à l'époque messianique, il y a une sélection. C'est impossible autrement. Il y a Dieu se dévoile, c'est le royaume du bien, et le mal n'a plus part. On ne peut pas être à moitié-moitié. Moitié, c'est-à-dire qu'il y a une partie de mal. On doit l'enlever. Donc il y a une sélection qui se fait durant l'histoire, et on le voit très clairement. Tu ne peux pas arriver en Israël et rester neutre. Moi, je suis pour tout le monde. Ça n'existe pas une chose pareille. Parce que tu dois prendre position. Voilà, il y a Gay Pride maintenant. Gay Pride, bon, ils l'ont annulé, paraît-il. Baruch HaShem. Gay Pride, tu es pour ou contre? Tu peux pas dire, je suis neutre. Prends une décision. Les archéologues israéliens vont et creusent maintenant les anciens cimetières juifs. Après la Torah, c'est interdit. Alors, tu es pour ou contre? Quelqu'un qui est complètement athée dit, quel est le problème? Je ne comprends pas. Il y a des vieux os d'il y a 2000, 3000 ans. Laisse les archéologues faire leur boulot. El Al, qui est la compagnie qui représente, nationale, qui représente l'État d'Israël. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus nationale, mais représente quand même l'État d'Israël. Est-ce que El Al peut-il voler Shabbat, oui ou non? Il y a eu un grand débat ici en Israël. Tu ne veux pas rester où tu es là, où tu es là. Tu ne veux pas rester neutre. Donc en Israël, nous sommes entre juifs. Tu es obligé de prendre position. Maintenant, le français moyen, ça veut dire quoi moyen? Qui est justement un peu là, il arrive en Israël, il est obligé de se positionner. Il n'y a pas presque pas le moitié-moitié. En tout cas, il ne fera pas long feu, d'accord? Maintenant, il y a un danger. Vu que à l'étranger, tu étais attaché à ton judaïsme parce qu'en face, c'est le non-juif. Donc, il y a eux, il y a moi. Et si moi, je ne me mets pas en relief, je ne me distance pas, ne me différencie pas du goy en face, je risque de m'assimiler, et je ne veux pas être assimilé, moi, je suis juif. Donc, tu gardais quelques principes juifs pour bien mettre la différence en relief. Ici, on est entre juifs. Donc, plus besoin de garder ces différences. Donc, toutes nos attaches au judaïsme, qui étaient déjà des attaches très faibles, paf, 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 elles sautent. Et si pas nous, nos enfants? Au contraire, tu peux arriver ici et te dire, je suis la Terre Sainte. Et c'est vrai qu'il y a eu des Serrara, mais je suis en Terre Sainte, donc je suis venu en Israël, pas pour être géographiquement ici, pour grandir en sainteté. On dit en blaguant qu'il y a un Admor. Un Admor, c'est un grand rabbi d'une chassidoute, un rébé, qui a décidé un beau jour de quitter son Ukraine natale pour monter en Israël. Et il a fait une grande fête, et il a invité aussi là-bas le Yetzerara. Et il lui a dit, voilà, je fais une grande fête pour te dire bye bye, terminé, tiens, signe-moi le papier, moi je quitte maintenant, je quitte l'étranger, dans l'étranger du Yetzerara, je vais en terre d'Israël, c'est la terre sainte, signe-moi un papier. Le Yetzerara dit, aucun problème, je signe un papier, voilà, on ne se voit plus jamais, terminé. Bon, il prend l'avion, il atterrit à Lod, et évidemment il y a toute une audience qui reçoit le Rebbe, etc., avec des banderoles, tout un cortège honorifique. Et qui dirige le cortège? Le SRA. Toi? Mais on sait, il y a quelques heures, là, tu m'as fait un contrat et tu restais là-bas. Vous n'avez pas compris. Lui, là-bas, c'est la succursale. Ici, c'est le siège central. Il y a beaucoup de Kudusha en Israël, mais il y a aussi un grand SRA. C'est impossible. Dieu nous donne le libre choix. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc, il y a un libre choix toujours. Plus tu peux accéder à un niveau de sainteté, plus tu as aussi une porte ouverte vers le SRA qui est énorme. C'est vrai que celui qui vient se purifier, on l'aide. Tu as une aide spéciale, c'est certain. Mais celui qui vient s'impurifier, on lui ouvre la porte. On ne va pas l'empêcher. Te pousser, on ne poussera pas. Mais la porte, elle est ouverte. Et en Israël, tu as des choses que tu n'as pas en France, au niveau de la Touma. D'accord? Ça existe aussi. Donc chacun est libre. Et en Israël, vu que l'amplitude de choix, elle est plus grande, donc tu as une plus grande liberté qui peut arriver à des excès beaucoup plus graves. On est obligé de se positionner et de savoir qu'est-ce qu'on veut, qui sommes-nous. Je ne peux pas venir, celui qui vient en Israël pépère pour être entre juifs, à tous les coups, il risque, si pas lui, ses enfants ou petits-enfants, risque de quitter la Torah.
Et c'est le problème justement qu'il n'y ait pas de vraie communauté juive ici, une communauté entière, tout le monde. C'est un problème, parce que bien, il y a des conflits entre les communautés.
Les conflits en communauté, c'est une chose qui est extrêmement mauvaise, c'est certain. Maintenant, qu'il y ait un positionnement et une compartimentation, ça a aussi des plus. Ça veut dire que nous, maintenant, on va dire, ok, moi, je veux, par exemple, vivre dans un pays, dans un quartier où il n'y a pas de mini-jupe. Oh, je veux tous ceux qui sont comme moi, on va dans le même quartier, il n'y a pas de mini-jupe, d'accord. Je ne peux pas obliger les autres à ne pas porter de mini-jupe, elle veut, il fait chaud, elle veut un mini-jupe, qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais elle va dans le quartier des mini-jupes et moi, dans le quartier des non-mini-jupes. C'est une chose qui s'entend, d'accord. C'est légitime, tu ne peux pas faire ça en France. Prendre un quartier, maintenant, voilà, délimiter les non-mini-jupes, c'est impossible, d'accord. C'est un pays laïque. En Israël, ça a été difficilement, mais possible. Donc c'est certain que les habitants de ces quartiers veulent conserver leur différence par rapport aux autres. Moi je n'ai pas la télévision à la maison. D'accord, la télévision les psychologues Goy ont déjà hurlé suffisamment depuis beaucoup de temps que la télévision, de façon extrêmement claire, incite la jeunesse à la violence et au sexe. On devrait, chaque homme sensé devrait prendre la télévision, la jeter par-dessus la fenêtre. D'accord ? Pas la vendre, la jeter par-dessus la fenêtre. C'est un objet qui ne vend que de la violence et du sexe. Un peu d'infos, d'accord ? Comme on dit, oui, non, mais les infos, ok. Mais c'est pas pour un peu d'infos qu'on doit maintenant sacrifier notre éducation des enfants. Les enfants sont bloqués dessus, sont rivés, ils sont extrêmement vulnérables, sensibles, ils avalent tout ce qu'ils voient dans la télévision. Qui en est responsable? Les parents qui éduquent leurs enfants au sexe et à la violence. C'est absolument clair. Il y a combien de cas de casse, d'accord, de crimes qui ont été, dont l'idée a germé chez les criminels, d'un film qu'ils ont vu à la télévision. Je me souviens qu'une fois, le Rav Elbaz était venu en France. Il a pris l'avion. Alors, quelqu'un m'a raconté, il est avec lui dans l'avion. Alors, ces deux personnes religieuses, le Rav Elbaz, et parlait avec un autre. Et il y avait un film qui passait dans le... Bon, alors, le Rav Elbaz ne regarde pas, mais il discute. Mais de temps en temps, tu peux pas, il y a une... il donne un coup de poing à l'autre. Le Rav Elbaz est complètement choqué, il voit quelqu'un qui donne un coup de poing à un autre. Que ça, chaque fois. Nous, on est habitué, tu vois, boum, tac, du sang, ça, pan, je l'ai tué. Et chacun qui n'est pas habitué, il est choqué. C'est pas toujours, il voit un homme donner un coup de poing dans un autre, et tout à coup, pan, il le tue. Ah, d'accord, comme les Indiens, depuis que t'es gosse comme ça, tu les vois. Mais quelqu'un qui a les yeux purs, le cœur pur, il voit ça, il comprend pas, il est en train de voir des gens se tuer. Réaction pure, normale. Mais qui fait rigoler aujourd'hui, nous, qui sommes pollués. Donc, tu pollues tes enfants. Donc moi, maintenant, je n'ai pas de télévision à la maison. Attends, le voisin d'en face, il a la télévision. Ben c'est classique. Les enfants du voisin invitent mes enfants à aller voir un film inoffensif, me dit le voisin. D'accord ? Inoffensif et inoffensif. Tu enlèves le i, après inoffensif et après offensif et tout ce que tu veux. D'accord ? Tout ce que tu veux. Il y a un danger. Donc nous essayons de vivre d'après des critères que nous pensons être des critères de qualité de vie, qualité spirituelle, qui ne peuvent être préservés que par un environnement compatible. C'est tout. C'est une chose qui est logique. Alors tu auras un esprit communautaire de ces quartiers, oui, mais ce n'est pas la communauté où tout le monde se connaît, tout le monde... Oui, tu vois encore, on peut dire, moi, dans mon quartier, tu as des synagogues, où les gens fréquentent synagogues, ils se sentent unis, il y a des cours, oui, il y a quand même un esprit communautaire, mais c'est moins, je pense que c'est quand même moins poussé qu'en France, moins... Au niveau de l'entraide, c'est plus poussé, hein. C'est certain qu'en Israël, tu es au niveau de l'entraide, au niveau des gmarim, ce qui s'appelle des instituts de... Les organismes d'entraide, des choses extraordinaires. Tu as dans chaque quartier, tu as un petit livret du quartier qui te donne tous les services du quartier au niveau du GMAR. Ce sont des prêts gratuits. Tu as des prêts d'argent sans intérêt, tu as des prêts de cassettes, tu as des prêts de produits médicaments. Tu as besoin de médicaments à minuit, d'accord ? Tu vas là-bas et ils te donnent gratuitement. Toi, tu es censé ramener la semaine suivante le même médicament. T'as ton gosse qui hurle à 1h du matin, maintenant, il n'a pas sa sucette. Et tu vas partout, tu sers sous les lits, sous les armoires, pas de sucette, d'accord. Et il hurle. T'as un gmar de sucette, d'accord. T'as un gmar de pain, de sraoul pour Shabbat, t'as plus de sraoul pour Shabbat, du vin pour les kidouches, de robe de mariée, t'as eu des enfants. Moi, j'ai eu 8 enfants, jamais j'ai acheté un landau. Jamais acheté un landau. Tu vas au gmar pendant les 6 premiers mois, t'as un gmar de landau, d'accord, des gens qui prêtent. T'as besoin de tables maintenant et de chaises pour une simra, t'as besoin d'une perceuse à béton spéciale, t'as besoin d'un humidificateur d'air, t'as besoin, qu'est-ce que j'en sais, il y a un gmar d'enfants perdus. Quelqu'un a trouvé un enfant, il amène au gmar d'enfants perdus. Ouais, ouais, c'est arrivé des gamins. Ouais.
Est-ce que le problème en Israël, c'est pas... Surtout pour les Français.
T'as un gmar de gmar, t'as un gmar d'idées de gmar, t'as un gmar des idées. Qu'est-ce qui pourrait... Moi je vais ouvrir un gmar, pourquoi je pourrais ouvrir un gmar, d'accord ? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait, d'accord ? des gmars de rasoirs pour cheveux, de toutes sortes de choses, de tefillin bien sûr, de tzitzit, de mezuzot, tout ce qu'on peut imaginer avoir besoin, de sefer Torah, une famille qui est en deuil, ils ont besoin de sefer Torah chez eux à la maison, t'as des gmars, chez eux dans le quartier, ils ont créé un organisme d'ambulance. S'il y a un cas de mal, t'as plus l'ambulance, dans les 30 secondes, t'as une ambulance en bas de chez toi. Shabbat, jour de fête, Yom Kippour, dans les 30 secondes. Avec des gens compétents, qui travaillent maintenant en corrélation avec le... C'est extrêmement... C'est absolument, donc, il y a une entraide qui est beaucoup plus grande qu'à l'étranger, c'est absolument certain. Au niveau communautaire, on est... Vu qu'on n'est pas en face des goïms, regarde maintenant qu'il y a la guerre. C'est certain qu'il y a, qu'on sent beaucoup plus d'unité. C'est certain. Hélas, c'est marqué le peuple d'Israël comparé à l'olive. Quand on le presse, il sort son huile. L'huile, c'est considéré comme la chose de qualité qu'il y a dans l'olive. C'est ce qui donne la lumière. Notre lumière, notre unité, elle vient à l'aise quand on nous presse. Il faut demander à ce qu'on ne nous presse pas trop et que nous, on se presse nous-mêmes pour s'unir. Oui.
Est-ce que le problème, c'est pas que quand on est en France, on a un stade d'évolution qui fait que, par exemple, aujourd'hui en France, c'est déjà dur de porter Talit Katan parce qu'on est déjà regardé de travers. Et quand on arrive en Israël, alors pas partout, c'est vrai, dans des quartiers, si on a la chemise à manches courtes, on va nous regarder de travers pour le cas inverse. Donc c'est dur pour un juif français
c'est vrai.
Se positionner là-dedans.
C'est vrai qu'il y a un autre aspect. C'est que quelqu'un maintenant, il fait ses 2 heures de Torah par jour en France. C'est un héros. Lui, personnellement, il se juge pas. On peut pas. C'est très dur de ne pas se juger relativement aux gens qui nous entourent. Moi qui est un juif qui pratique comme il faut à Paris, je fais mes 2 heures de Torah par jour, et je suis un des tops de la communauté parisienne. J'ai une bonne part de paradis, un peu d'enfer parce que je fais pas aussi quelques bêtises, mais je suis quelqu'un de bien. T'as réussi, t'es un nul. D'accord? T'es un nul. Alors, ça peut décourager. Bon, ça c'est le challenge, on n'est pas venu ici. Chazal ont déjà dit, mieux vaut être à la queue des lions qu'à la tête des renards. Voilà, parce que quand quelqu'un a la queue d'un lion, eh ben, il va montrer pour être à la tête des lions. S'il reste à la tête des renards, il sera qu'un renard toute sa vie. Ce que je dis aux gens qui arrivent à un niveau, on a 4 classes ici à l'Eshiva. Quelqu'un arrive à la fin de la classe 1, il hésite à passer en classe 2, je lui dis, vas-y. C'est très dur au début, mais on s'accroche pendant 2-3 mois, après on arrive à un niveau qu'on n'aurait pas accédé durant un an dans la classe 1. Tu comprends? C'est certain qu'il y a un effort à faire. Bon, ça c'est le challenge, le défi de la terre d'Israël.
En 6 mois, en France, c'est déjà énorme de porter un Talit Katan. En Israël, en 6 mois, on nous regarde de travers, donc on est obligé d'aller s'installer.
D'abord, personne ne te regarde de travers. Non, on ne te regarde pas de travers.
Tout le monde nous installe dans les banlieues des quartiers religieux parce que quand même, on n'est pas assez.
Non, on ne te regarde pas de travers. Simplement, prends-le comme un tremplin. Prends-le comme un tremplin que ici, facilement, sans te regarder de travers, tu peux arriver à être un bon juif. Personne ne te regarde de travers parce que tu es habillé en manche courte.
Non, mais j'exagère là, c'est évident.
Faut pas que j'exagère non plus, alors dis la vérité. Voilà.
Non, mais c'est vrai que quand on a la manche
courte, une femme va en robe courte, oui, elle sera regardée de travers dans un quartier religieux, ça c'est certain. Bon, alors qu'elle le prenne comme tremplin pour commencer à s'habiller en tzniout. Et si elle n'est pas capable, alors qu'elle ne va pas dans un quartier religieux, c'est certain. Il faut être intelligent. Alors qu'elle aille dans un quartier limitrophe.
On va se retrouver entre gens comme nous.
Ça, c'est une solution que je donne aux gens. Tu as par exemple Ramot Aleph. Tu as des gens qui sont non religieux complètement, et tu as des gens complètement orthodoxes. C'est pratique pour quelqu'un qui ne peut pas encore prendre sur lui le orthodox way of life, d'accord, qu'il est dans un quartier pareil, il va à son rythme. Alors il n'est pas complètement dans un quartier non religieux, mais il n'est pas complètement dans un quartier religieux, c'est le bon moitié-moitié qu'il faut pour un Français qui est encore moitié-moitié.
Il y avait, je ne sais pas quel rave, qui avait le voisin et qui avait crié pour le et c'est pas mieux, non,
Oui, Rabbi Meir, il avait des voyous qui l'embêtaient beaucoup. C'est pas simplement un mauvais voisin. Des voyous qui lui cassaient les pieds. Alors il a prié à Dieu qu'il meure. Sa femme lui a dit, « Itamu hataim inaretz. » Hataim. Il faut faire attention d'ailleurs. Hier, on était au Kotel, on a lu le Teilim. Quelqu'un a lu et il a fait une erreur. Et vous aussi, faites une différence. Il faut bien faire la différence. On dit le mot hataim, par exemple, dans le Nefilat HaPaim qu'on a pris après la prière. On dit, comment on dit là-bas, là, quelqu'un a sidour ici sur place, ouvre-moi le David Elecha Nafshi et ça. Chataim signifie péché. Chataim avec un accent, un dagesh, un accent tonique dans le tête, signifie pécheur. Et quelqu'un qui ne sait pas bien lire en hébreu, il lit, les deux c'est chataim, ça se prononce chataim, chataim. Mais une fois on met un 2T, chataim, et une fois chataim. Chataim avec un T, c'est des péchés. Hataim, ce sont des gens pécheurs. Les personnes de Sodome sont des grands pêcheurs. Hattaim, ils ne sont pas des pêchés, ils sont des pêcheurs. Là, par exemple, on aura Tov Yashar Hashem. Bon et droit est Dieu. Alken, c'est pour cela, Yoré, il dirigera Hattaim, les pêcheurs, Badarech, dans la bonne voie. Et pas les péchés. Dieu ne va pas diriger les péchés dans la bonne voie. C'est rien de déjà un péché. Un péché reste un péché. Si tu dis Hattaim, ça ne veut rien dire ce que tu as dit. Hattaim, ça veut dire. Donc elle a fait un jeu de mots. Elle le dit comme ça. C'est marqué dans le verset. C'est marqué Yoré Hattaim. Comment c'est marqué là-bas, elle a dit Itamu. Que soit éliminé. Hattaim minaharis, les pêcheurs de la terre. C'est marqué comme ça. Elle lui a dit, pourquoi c'est marqué Hattaim? On aurait pu dire, il y a un autre mot qui signifie aussi pêcheur, Chotim. Chotim, c'est le mot pêcheur aussi. Pourquoi la Torah a-t-elle préféré dire Itamu Hattaim, avec un tête Hattaim, les pêcheurs, et non Chotim, pour qu'on puisse faire un jeu de mots entre Hattaim et Hattaim. Hattaim avec deux T, pêcheur, et Hattaim, pêché. C'est un jeu de mots qu'elle lui a fait. Ne prie pas que disparaissent les pécheurs, mais que disparaissent les péchés. Prie qu'il fasse tchouva. Il a fait, comme ça, Rabbi Meir écoutait sa femme Brouria, et ils ont fait tchouva. Si on voit que Brouria, elle a pris, elle lui a dit, Itamu Hattaim Mina Aretz, que disparaissent les pécheurs, et pourquoi c'est marqué Hattaim pour te dire pas les pécheurs, mais les péchés, ça c'est un drache, c'est le sens allégorique. Le vrai sens, c'est Itamu Hattaim, c'est que disparaissent les pécheurs de la terre. Alors, comment c'est qu'on dit que disparaissent les pécheurs de la terre? Ça a un beau jour, il faut bien se faire à l'idée. Vient la rédemption, vient l'époque messianique, il y a un dévoilement du bien, ça sera total. J'espère et j'imagine qu'auparavant, il y aura déjà des lumières suffisamment grandes pour que nos frères fassent tchouva. Mais sinon, quand arrive cette grande lumière, les gens ne sont pas suffisamment prêts à recevoir cette lumière, c'est trop. On voit très bien cela, c'est marqué dans le prophète Micha c'est un des prophètes, c'est marqué qui met cetera mesarim aren ou neflaot. De même que tu nous as sortis d'Égypte, alors comme ça fais-nous des miracles de la fin des temps. De là on dit Chazal, le même prototype de ce qui se passait à la sortie d'Égypte aura lieu à la fin des temps. Or nous savons très bien qu'à la sortie d'Égypte, le peuple juif n'est pas sorti dans sa totalité, qu'un cinquième du peuple est sorti. Il semblerait qu'à la fin des temps aussi, qu'un cinquième, quatre cinquièmes ne pourront pas sortir. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis? C'est parce qu'ils ne voulaient pas quitter la terre d'Égypte. Ils étaient bien en exil. Ils étaient bien, pas géographiquement bien, ils étaient bien en train de servir le Avodah Zarah. Ils disaient, on va dans le désert servir Dieu. T'es ma boule, toi, qu'est-ce que tu vas manger? Dieu pourvoira, hein, encore un de ces éclairés, d'accord? On l'a été à la Yeshiva, on l'a bourré le crâne, Dieu pourvoira, d'accord? On est bien, ici on travaille pour Pharaon, c'est vrai, c'est un peu dur, mais au moins on donne à manger tous les jours comme il faut, on est bien. Dieu a commencé à dévoiler sa lumière, Diplé. C'est marqué dans le livre saint, dans le Maral de Prague, il explique que ces Diplé sont par rapport aux 10 commandements et par rapport aux 10 paroles de création du monde. 10 fois Dieu a dit dans Bereshit, Vayomer Elohim. C'est un dévoilement de Dieu qu'il y a eu. Dieu, il était Dieu, il a commencé à se dévoiler dans le monde. Et ça va du plus bas au plus haut. On commence par la première plaie, c'est un petit dévoilement. Après, toujours plus fort. La neuvième plaie, c'est celle de l'obscurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a amené l'obscurité? Faux. Il a amené un dévoilement de la divinité extrêmement grand. Une lumière énorme. Comme c'est marqué, où le blé Israël, il y a Orbe Moshvotam. Pour les fils d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Quelle lumière? Le néon? C'est marqué durant la neuvième plaie d'obscurité. Pour les Égyptiens, il faisait obscur. Et pour les Juifs, il y avait lumière. Alors les gens croient que Dieu envoie l'obscurité chez les Égyptiens et il a amené la lumière chez les Israéliens, chez les Juifs. Le Maharal de Prague explique, non, Dieu a amené beaucoup de lumière, c'est tout. Celui qui est incapable d'avoir la lumière parce qu'il n'a pas les outils pour, il y a une lumière énorme qui se dégage. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Je te mets un projecteur dans les yeux, t'es aveuglé. Ils étaient aveuglés. Et les Juifs qui étaient au niveau, au contraire, ont profité de cette lumière. C'est un tremplin qui les a montés. Dieu amène toujours une seule influence. C'est marqué aussi à la fin des temps, c'est marqué très 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 clairement. La dernière, le dernier prophète s'appelle Malachi. Comment il finit? Malachi, c'est un de tous les prophètes, 400 ans avant la création. Avec lui, s'arrête la prophétie. Ine ani sholach lachem et Eliyahu Navi. Voici, je vous envoie maintenant Eliyahu Navi. Lifne bo yom Hashem, avant que vienne le jour de Dieu. Hagadol v'anora, grand et redoutable. Veshiv lev avot albanim, lev albanim alavotam. Et lui ramènera le corps des enfants à leur père, et le corps des pères à leurs enfants. Pen avo vake aaret harem, de peur que je vienne et que je frappe ce pays d'anathème, de harem, de fléau. Ça, c'est le deuxième verset. Le verset d'avant, qu'est-ce qu'il dit? J'amènerai une... Comment c'est marqué là-bas? Je dévoilerai le soleil avec ses rayons, qui sera Shemesh Tzedaka Omarpe, un rayonnement Tzedaka de bien, d'aumône, et de Marpe, de guérison, qui va guérir. Les Tzadikim seront guéris par ces rayons. Les Rechaim brûleront comme du chaume, comme de la paille. C'est-à-dire que Dieu amène une influence de lumière énorme. Pas le soleil, c'est l'influence de Dieu. Une grande influence de lumière, dans le monde. On voit Dieu. Ceux qui sont habitués, ils sont branchés avec Dieu. Ah, enfin, ceux qui sont incapables de voir Dieu, ah, c'est insupportable. Maintenant, hélas, hélas, il se peut que s'il y a des juifs qui n'auront pas encore fait tchouva à l'époque, parce que j'espère que ça sera en degré successif suffisamment grand pour que les juifs aient l'occasion de faire tchouva, et je pense qu'on a commencé déjà, parce que ce mouvement de tchouva qu'il y a depuis 30 ans, c'est quand même... T'as pas une famille juive, t'as pas quelqu'un qui a fait tchouva. Ça veut dire, eh oh, réveille-toi mon vieux. Et tu vois que le monde occidental, c'est la catastrophe totale. Il n'y a rien qui marche, c'est la catastrophe totale. Donc réveille-toi mon vieux. Tu vois les miracles des guerres d'Israël. Réveille-toi mon vieux. Tu vois qu'on parle sans cesse de nous à la radio, donc il y a quelque chose qui se passe avec nous. Réveille-toi mon vieux. Donc il y a des réveille-toi. Et le mal va en Israël est de plus en plus mal. Un temps, il n'y avait pas de vente de porc en Israël. Ça fait 10 ans que c'est tout à fait libre. Maintenant, ça amène la gay pride. C'est un degré supplémentaire. L'homosexualité qui rentre en Israël, c'est une chose qui est contraire quand même à la ville sainte. On peut comprendre cela. Donc, il y a une baisse de niveau. Pourquoi? Pour quelqu'un qui a un niveau qui est bas. Si le choix, il est plus haut que son niveau de libre-arbitre, alors lui n'est pas encore mis en question. Lui, il mange du porc, c'est pas si grave. Mais homosexuel, pour lui, ça, il faut quand même pas pousser, ça, il touche pas encore. D'accord? Alors, il peut accepter que la société, elle baisse de niveau spirituel, on mange du porc, ça va, c'est pas terrible. On passe au lapin, c'est pas terrible. Il est dur de la télévision de trouver un magasin où il n'y a pas des fruits de mer, la majorité ont des fruits de mer, c'est pas terrible. Homosexuel, mon fils homosexuel maintenant, attention, ça va plus, faut faire quelque chose. Quelque part, Dieu fait une sélection entre bien et mal. Le bien devient bien, le mal devient mal, de plus en plus mal, pour justement ceux qui sont encore bien en ressortent. Qu'il y ait une remise en question et qu'il y ait un tchouva. Donc il y aura d'un côté le mal qui devient beaucoup plus mal pour faire ressortir le bien qu'il y a, et il y aura une sélection qui se fait, donc un appel du bien. Il y a une lumière qui commence à se dévoiler. J'espère que ça va continuer suffisamment progressivement pour que les juifs aient le temps de faire tchouva, mais ça risque d'aller un certain moment suffisamment vite pour que, si au bout d'un moment il y a des gens qui sont encore dans le mal, et c'est triste, personne ne veut qu'il y ait une personne qui meure au monde, ni des goïms, ni des juifs. Et personne vraiment ne veut pas ça. Mais il est certain qu'au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un dévoilement du bien. Et le mal va disparaître. Maintenant, s'il y a encore des gens qui sont les véhicules du mal, alors Dieu les jugera. Ce n'est pas nous de les juger. Et très souvent, il se peut qu'un grand orthodoxe, il est véhicule du mal, alors qu'un type qui ne fait rien du tout, il est véhicule du bien. Ce n'est pas nous qui avons le droit de juger. Lui, il est responsable, l'autre, il est responsable. Il n'y a pas d'éducation dans ce sens. Personne ne peut savoir qui est le juste et qui n'est pas juste. Dieu seul. Mais si Dieu juge, nous savons qu'il juge bien. Oui, mon cher ami.
Si, par exemple, on dit quelqu'un, alors, il mange pas cachère, mais maintenant, il y a la gay pride, non. Alors, pourquoi le fait qu'il y ait une chose pareille, alors ça va faire en sorte que...
Il se remet en question.
Pourquoi il va se remettre en question? Il va dire, juste, il voit ça, que... je touche pas à ça, mais je suis très bien, sinon...
Enfin, on dira, mais pourquoi pas? On dira, mais pourquoi?
Tout un chamboulement, dans même déjà ce qui
je
fait
compris.
Pas, de pas bien. Je comprends pas ça.
Lui, on lui dit, c'est pas bien de manger du porc. Il dit, pourquoi pas? Oui, la Torah dit qu'il ne faut pas. Ah, mais la Torah, ça va, c'est écrit il y a 3000 ans, dans le désert c'est mauvais, le porc, ça amène des petits vers de terre, etc. Bon, mais aujourd'hui, tu as de la viande aseptisée, le porc, ça va. On a quitté le ghetto, laisse-moi manger tranquillement ma cuisse de jambon. Attends, on lui dit, ton fils est homosexuel. Il crie, hé, hé. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je lui dis, mais attends, pourquoi pas? Non, mais il y a des limites à tout. Mais pourquoi pas? Lui, il aime les hommes. Elle fait quoi? Pourquoi c'est pas bien? Et là, il est obligé de dire, ok, il y a des lois morales. Quel est le fondement de ces lois morales? Quel est le fondement? Ton fils est heureux avec un homme. Laisse-le. Si tu n'as pas un fondement de loi morale, s'il n'y a pas une moralité qui dit non, ça va pas, alors il devrait accepter ça aussi. Donc malgré lui, si lui ne veut pas que son fils soit homosexuel, il devra reconnaître qu'il y a, oui, une moralité et donc un fondement de la moralité. Et de là, partie à moralité, donc tu parles déjà de spiritualité. Spiritualité, alors, si homosexuel, c'est pas bien, porc aussi ne peut n'être pas bien. Et non, tefilin aussi, etc., etc.
Mais au nom d'une moralité laïque, on peut très bien dire être homosexuel, c'est
non.
Pas bien. Et puis,
non, au nom de moralité laïque, pourquoi c'est pas bien?
Parce qu'il y en a beaucoup
au point de vue, au point de vue
laïque qui
parce qu'ils sont
n'acceptent pas ça.
Ils n'acceptent pas ça parce qu'ils sont pas honnêtes. S'ils étaient honnêtes, ils diraient, du point de vue laïque, il n'y a aucune, absolument aucune raison de trouver cela pas comme il faut. Condamnable, absolument pas. Point de vue laïque. Pardon ? Et alors ? Qu'est-ce qu'il faut avoir une descendance ?
Ils peuvent dire la majorité sont pas homo. Alors s'il y a une minorité, ça veut dire que c'est pas.
Je comprends pas. Tout le monde va avec des robes vertes. Je vais porter une robe verte. Parce que tous les hommes, ils vont avec des femmes. Moi, je vais avec une femme. Moi, j'aime les hommes. Moi, j'aime les chiens.
Ben oui, mais c'est pas bien parce que c'est une minorité.
Les chiennes, plutôt.
Tu vois bien, c'est mal. Hein? On va lui dire, regarde, au nom d'une moralité laïque, on va lui dire que vu qu'il y a une minorité qui font ça, c'est pas bien. Et alors, il dit, ouais,
depuis quand la moralité laïque, elle est déterminée par une majorité? Je comprends pas.
Ben, c'est comme ça, le monde, va.
Non.
Vous avez dit, on est influencé par la société. La majorité de la société, elle fait comme ça. Si la majorité fait comme ça,
tu vas légitimer un fondement moral sur une majorité ou pas? S'il y a une loi qui passe, là, on dit, écoutez, on a une question, est-ce qu'on est pour et contre? Et il y a un référendum, ok, on ira d'après la majorité. Mais tout le monde sera bien conscient qu'il ne s'agit pas ici d'un fondement moral. C'est un choix de démocratie. Moi, moralement, je comprends qu'il faut une démocratie, donc je respecte la loi de la majorité. Mais tu regardes un fondement moral. Moral, au niveau de la moralité, qu'est-ce qu'il y a de mal d'aller avec un homme? Absolument rien de mal. Si ce n'est qu'il y a ici une reconnaissance d'une entité spirituelle qui dit non. S'il n'y a pas ça... Rien, t'as aucune limite, aucune limite. Oui, t'as une limite, tu dis, regarde, t'as pas le droit moralement de me faire du mal. T'as pas le droit de me voler, t'as pas le droit de me faire des dommages, etc. Ça, oui, parce qu'on vit en société. Donc ta liberté, c'est-à-dire tout commence celle des autres. Maintenant, si moi, dans mon coin, dans ma maison, je fais les pires horreurs immorales qu'il puisse y avoir, de quel droit on va m'empêcher? Laïquement, il n'y a aucune légitimité. Donc Dieu devra faire en sorte, quelque part aussi, d'accentuer le mal, c'est le mal qui devient... Plus profondément, c'est on est en train de ressortir sans cesse les étincelles du bien et du mal, donc le mal, il descend de niveau, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en ressortir, et là, c'est la fin des haricots, le début du bien.